Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Willy Conquer, j'ai oublié toujours votre nom, Willy Conquer, donc qui est prêtre des missions étrangères, et ça va être une émission un peu étrange, parce que d'abord vous n'êtes pas comme tout le monde, et puis ensuite, si vous voulez, ce que vous faites est assez intéressant et vous avez écrit ce livre, très intéressant même, parce que vous avez écrit ce livre sur l'émergence de patrons chrétiens quelque part à la fin du 19e, même plus tôt, au milieu du 19e, l'effet qu'ils ont eu. Et ce que vous essayez de faire, c'est dans le fond de prendre leur exemple et d'aller l'appliquer en Asie, puisque vous vivez au Cambodge maintenant. Et vous êtes un mouton noir dans l'Église parce que vous êtes plutôt libéral, même tout à fait libéral. C'est-à-dire que vous reconnaissez très bien les origines chrétiennes du libéralisme. Donc, vous êtes un ami de Didier Darcet qui est ici. Et donc, moi, je vous ai demandé de venir parce que vous apportez un témoignage différent de ce qu'on entend d'habitude sur l'Église, sur les prêtres, etc. Et je voulais que donc vous m'expliquiez un petit peu comment un être né à Monaco, qui est quand même pas une ville particulièrement ascétique, hein, je crois pas, comment vous vous êtes retrouvé prêtre, comment vous avez choisi cette voie difficile entre tous d'être dans les missions, et en d'autres termes, qu'est-ce que vous foutez ici, quoi?
Déjà, merci beaucoup Charles de me recevoir et merci de faire un mouton noir quand on est prêtre. Moi, je suis mouton noir en France, mais je suis mouton blanc au Cambodge parce que je porte une soutane blanche.
Ah
Je suis mouton noir, mais j'ai la chance d'avoir un bon pasteur qui s'appelle Jésus, ce libéral nommé Jésus dont on va reparler. Moi, je suis né à Versailles, donc d'une famille franco-américaine avec des parents qui travaillaient. Et c'est vrai qu'on a un milieu plutôt privilégié dans la banlieue ouest. Et c'est assez tard qu'est venue la vocation de prêtre. Mais cette vocation, je pense qu'elle ne serait pas venue si j'avais pas aussi eu une conversion intellectuelle qui est venue grâce à vous.
sans
Et c'est pour
blague.
ça que je voulais commencer cette émission par une petite chronique, si vous voulez
Mais
bien,
si vous l'aimez,
où je relis un hommage parce que.
c'est une grosse responsabilité pour moi que vous me collez sur les épaules, mais
Mais
j'ai
non, mais
pas honte.
ça me tenait de vous le dire, ça fait des années que j'y pense. On avait dîné une fois ensemble à Rome avec le père Sirico et j'avais pu vous le dire comme ça lors d'une conversation amicale. Mais je pense que c'est important de comprendre aussi l'importance que vous avez pour beaucoup de personnes qui vous suivent. Vous êtes un mentor dans l'épargne, vous êtes un penseur, un intellectuel qui a beaucoup d'influence en France et au-delà de la France. Mais je pense qu'aussi, en fait, comme chrétien, il y a peu de gens qui le savent, mais vous avez écrit ce livre qui pour moi était un point de départ, qui s'appelle Un libéral nommé Jésus.
Qui est là derrière, d'ailleurs, qui a été retiré par mon éditeur Pierre de Taillac.
Donc, cher Charles, revenu quelques jours de ma mission au Cambodge, où les scooters klaxonnent et où les rizières poussent en le silence, je suis venu vous exprimer cet hommage. En 2008, j'étais un jeune étudiant en droit à l'université de Dublin et tout vacillait. Les subprimes s'effondraient comme un temple de papier, emportant avec elles non seulement des fortunes illusoires, mais aussi ma foi et ma raison. Fatigué d'entendre le prêchi-prêcha mélanger le monopole des bons sentiments et l'ignorance des lois économiques, je menaçais de tout perdre. La lumière du Christ, comme celle de l'intelligence droite. Le monde moderne m'avait appris à séparer radicalement, presque opposé, foi et raison, à croire que la foi était une affaire de sentiments et la raison une affaire de calcul statistique. Et voilà que les deux s'écroulaient ensemble, dans le même gouffre. C'est alors que votre livre, Un libéral nommé Jésus, me tombe entre les mains, comme une grenade dégoupillée par la Providence. Vous, catholiques, catholiques jusqu'à la moelle et libéral jusqu'à l'os, vous avez osé lire les évangiles avec les yeux d'un économiste libre, sans lunettes roses ni œillères étatistes. Et c'est ce que j'ai découvert dans vos pages qui m'a littéralement relevé. J'ai vu soudain le Christ non comme le doux utopiste collectiviste que l'on nous vend depuis des siècles, mais comme le plus radical des libéraux, celui qui confie des talents à ses serviteurs et exige qu'il les fasse fructifier. Qui parle de semences, de récoltes, de capital risqué, de serviteurs inutiles jetés dehors parce qu'il a enterré son don par lâcheté. J'ai compris que la parabole des talents n'est pas une gentille métaphore morale, mais une déclaration économique scandaleuse. À celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Scandale pour les envieux, bénédiction pour les créateurs. Grâce à vous, j'ai retrouvé le chemin de Fides et Ratio, l'encyclique de Jean-Paul II. Non pas dans les amphithéâtres poussiéreux des universités d'État, mais dans le fracas de cette crise. La foi sans la raison devient superstition collectiviste. La raison sans la foi devient calcul cynique qui finit par produire des bulles et des ruines. Boom and bust. Jésus ne vient pas abolir la propriété, le risque, le fruit. Il vient les libérer de l'idolâtrie de l'État et de la peur. Il nous rend vraiment libres parce que nous sommes fils, responsables, propriétaires, risquants, donnants, aimants, librement. Vous m'avez montré que le libéralisme authentique n'est pas athée, il est christique. Et que le catholicisme authentique n'est pas étatiste, il est libérateur. La croix elle-même est la plus grande et le plus grand acte de confiance jamais posé dans l'histoire. Un investissement à perte apparente qui rapporte la vie éternelle. Comme disait Bastien, il serait temps de faire enfin confiance à la liberté qui est un acte de foi en Dieu et en l'humanité. Aujourd'hui, je vous rends grâce et je vous dis merci Charles. Merci d'avoir osé dire que Jésus libère, que la vérité rend libre en effet, et que la main invisible, quand elle est guidée par la main percée du crucifié, peut encore produire des merveilles. Merci d'avoir réconcilié en vous et pour tant d'autres la raison et la foi, le marché et la charité, l'effort et la grâce. Que le Maître, à son retour, vous dise ce que tout serviteur bon et fidèle rêve d'entendre. C'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens partager la joie de ton Seigneur, avec une reconnaissance filiale et libérale.
Mais mon père, je ne sais pas quoi dire, moi je suis dans tous mes états là. Ça ne va pas faciliter la conversation ça.
Mais c'est peut-être l'occasion de vous dire que moi je suis prêtre des missions étrangères.
Oui.
Et que vous, finalement, moi, je n'avais pas de lien avec les missions étrangères avant d'y rentrer, mais vous, vous en avez déjà, sans être membre.
Oui, sans être membre. Mon arrière-grand-oncle, qui s'appelait Scheffler, qui était d'origine alsacienne, bien sûr, a été, je crois, le premier prêtre des missions étrangères au Vietnam. Et il a été martyrisé, oui.
Absolument, je crois en 1851. Et c'est lui qui va réveiller beaucoup de vocations en France. Mm-hmm. Il va notamment réveiller un autre qui s'appelle Théophane Vénard, qui est mort 10 ans après. En 1861, Théophane Vénard, qui, pareil, avait cette liberté intérieure, il savait. Scheffler était mort 10 ans avant lui, il allait dans un terrain miné, c'était presque de la folie. Mais c'était pas un kamikaze, c'était un témoin de l'amour de Dieu, qui a cette phrase très romantique qui dit « Un jour, quand le Seigneur voudra, il viendra comme le maître du jardin cueillir la fleur printanière ». C'est le printemps actuellement, et je pensais à ça en arrivant. J'aime beaucoup le printemps, qu'on voit pas en Asie. Lui, il voyait dans sa spiritualité, dans sa prière, il disait « mon temps viendra ». Et c'est magnifique parce que Scheffler, eh bien, en fait, il vous a peut-être transmis cette flamme de la mission, et c'est peut-être aujourd'hui pour ça que vous, plutôt que de prendre une petite retraite calme, vous gardez
dans la famille, on disait toujours « on est des gros pêcheurs et tout », mais enfin, on espère qu'il sera là au moment de, pour dire « il peut rentrer celui-là, il fait partie de la famille, donc si vous laissez…
» Vous laissez un petit accès, là, une petite file, un petit billet coup de fil.
Non, mais si vous voulez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le but, c'est que… dans tout ça, c'est qu'on est en train de faire une faute dans le langage qui est incroyable. On confond individualisme et égoïsme. Et moi, ce que je me tue à dire aux gens, c'est que la religion catholique est la seule. Si vous voulez, autrefois, il y avait quelques années un homme qui a écrit un livre qui s'appelait Huntington, qui était La guerre des civilisations. Il disait toutes les civilisations cherchent la survie du groupe. La civilisation chrétienne est complètement différente des autres, mais complètement parce qu'elle cherche le salut de chaque individu. Et ça fait une différence totale dans la façon dont vous approchez la société, où vous êtes un individu qui cherche à être sauvé, qui fait ce qui est nécessaire, où vous voulez servir le groupe. Et donc, on voit qu'en analyse la société, que la nôtre est complètement différente des autres. Maintenant, tout l'effort, si j'ose dire, des forces du mal, sont de nous ramener à adorer le groupe à la place d'être des individus.
Et quand on vient du Cambodge, on ne peut pas tout de suite penser à l'horreur des Khmers rouges, qui ont voulu réduire tout le monde à l'encart. Et c'est clair que c'est difficile, mais il y a une tension, parce qu'il faut trouver cet équilibre, et que je pense qu'il a été trouvé par nul autre que Jean-Paul II. Absolument. Jean-Paul II, dans le personnalisme, qu'il a compris. Jean-Paul II, il écrit cette magnifique encyclique, Centesimus Annus, où il défend l'économie de marché et tout ça.
Et c'est assez incroyable. Sirico l'avait pas mal conseillé, je crois, d'ailleurs.
Absolument, je pense aussi. Oui. Et donc, quand en 94, le Cambodge, eh bien, sort d'années de communisme cambodgien puis vietnamien, ils ont une constitution au Cambodge, je ne sais pas si vous savez, mais qui met dans les principes de sa constitution que le Cambodge est dorénavant une économie de marché. Alors, heureusement, c'est écrit, mais c'est difficile à mettre en place. Pour moi, la difficulté, c'est que vous et moi, on est très influencés par l'école autrichienne.
Bien sûr.
Donc Hayek, Mises et compagnie. Et il y a un principe dans l'école autrichienne qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Individualisme méthodologique. Donc c'est une méthode en économie pour essayer de discerner, de comprendre, d'analyser. Mais c'est vrai que beaucoup se sont demandé si c'était compatible avec la foi catholique. Et est-ce que la pensée libérale, du coup, elle est pas en conflit permanent avec cette vision plutôt ecclésiale, plus commune, plus communautaire aussi?
Je vais vous raconter une anecdote un peu bête pour répondre à votre question, que je trouve tout à fait pertinente. C'est un jour, il y a longtemps, je me faisais du souci, imaginez-vous, parce que je gagnais trop d'argent. Oui, c'était là. Je me disais, c'est parce qu'il y a quand même
un souci que d'autres avaient bien à voir.
C'est un souci, mais si vous voulez, c'est quand vous êtes élevé dans le catholicisme, il y a une espèce de mépris pour les gens qui gagnent de l'argent qui est un peu fatigant. Enfin, donc j'avais été me confesser pour en parler à un prêtre, là, et qui se trouvait être un prêtre suisse. Alors il m'a bien écouté, il m'a dit, mais vous êtes complètement couillon. Si votre don, c'est de créer de la valeur, de l'argent, etc., vous devez le créer, vous devez le créer le plus que vous pouvez et en faire bénéficier les autres autour de vous, parce que c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, vous ne devez surtout pas. Donc, il m'a encouragé à gagner plus d'argent. Je me suis dit, tiens, c'est un bon Suisse, celui-là.
Absolument.
Mais si c'est ça mon don, si vous voulez, ben, pourquoi je ne le ferais pas au maximum? Pourquoi on prendrait mon argent pour le donner à des gens qui vont faire n'importe quoi?
C'est clair, je pense que vous l'avez bien fait. Et les deux bonhommes dont je parle dans ce bouquin, Philibert et Camille Ferrand-Vroux, eh bien, ils vivent exactement le même problème. À l'époque, ils sont créateurs d'une filature. Donc, les filatures, c'est les sweatshops aujourd'hui.
Oui,
c'est là où ils font des vêtements, ils tissent
Ils étaient dans le Nord, évidemment.
Exactement, ça s'appelle même le fil au chinois. C'est le nom de la marque qui existe encore. Et en fait, ils ont le même problème. Ils gagnent tellement de thunes qu'ils se disent, mais comment on fait? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'augmenter les salaires, il ne s'agit pas de juste dépenser bêtement son argent ou de créer des fondations comme la fondation Bill Gates qui, en fait, sont plus idéologiques que pragmatiques. Et du coup, eux, ils vont réussir grâce à leur amitié, ces deux frères, l'un qui était médecin, l'autre qui était vraiment entrepreneur, à travailler ensemble pour faire de l'entreprise vraiment une sorte de lieu où on vit l'évangile. L'entreprise, parfois, on voit ça comme le monde du profit, mais ça peut vraiment devenir un lieu. Et on voit ça aujourd'hui avec le pape Léon, qui a choisi ce nom-là dans la ligne de Léon XIII. Mmh. Il a fait béatifier un patron d'entreprise argentin qui s'appelle Enrique Shaw, donc qui est le premier businessman canonisé, et qui peut montrer qu'en fait, on peut être entrepreneur et que créer de la richesse, eh bien, c'est magnifique. Et c'est même d'autant plus magnifique que c'est difficile de bien le faire.
Oui, le Christ le dit avec les talents dont vous avez parlé. Il dit, viens, bon serviteur, ou bon serviteur, il dit, viens, bon serviteur, parce qu'il a doublé, il a élevé son boulot. Le deuxième, pareil. Donc, si vous voulez, quand vous lisez les évangiles, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y a des gens qui étaient donnés si j'ose dire, cette capacité divine de la création, comme les grands artistes, c'est ce que je dis toujours, un entrepreneur peut être un grand artiste, et créer à partir de rien, ben, s'il a ce talent, il faut surtout qu'il le mette à la disposition des autres, pas qu'il le garde pour lui, quoi. C'est ça l'idée.
Mais c'est une énorme responsabilité, et c'est particulièrement difficile, et c'est pour ça que dans l'évangile, quand on dit que c'est plus difficile à un homme riche de rentrer au ciel qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, eh bien, on voit bien qu'on a attendu presque 2000 ans pour canoniser des entrepreneurs. On a des soldats qui sont canonisés depuis Saint-Martin, on a des rois depuis Saint-Louis, mais des entrepreneurs, des gens qui ont du fric, il y a quasiment personne au ciel. Vous allez être très seul, je crois. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que du coup, le pape Léon, eh bien, il veut nous montrer qu'il n'y a pas d'opposition.
Il n'y a pas d'opposition.
En fait, tout le monde aura sa place au ciel, les entrepreneurs aussi. Mais nous, notre question, c'est comment est-ce qu'on fait dans notre vie pour aider ces entrepreneurs? On vient de célébrer les 150 ans d'une association dont les frères Vraux ont participé à la fondation qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il y a des chapitres partout. Je ne sais pas si les gens de l'université de l'épargne y connaissent, mais c'est vraiment un truc où si tu cherches des gens qui, comme toi, veulent vivre des valeurs chrétiennes dans ton entreprise, pas juste le profit, mais vraiment une vision évangélique dans le travail, eh bien, c'est possible, c'est pas impossible. Et en fait, gagner de l'argent n'est pas un péché, mais je pense que mal gérer ses profits peut le devenir. L'argent très rapidement corrompt, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolument corrompt, absolument, disait Acton. On voit bien là, avec l'argent, quand on en a tellement, eh bien, c'est difficile à gérer. Et je pense qu'il faut des modèles. Et aujourd'hui, je pense que pour beaucoup, vous êtes un modèle, mais vous êtes trop vivant pour être canonisé. Il faut regarder dans l'histoire pour avoir des gars qui nous disent « mais en fait, c'est possible ». Et ces frères Vraux, eh bien, ils ont fait tellement de bien. Quand vous allez à Lyon, à Lille, parce qu'ils viennent de Lille, la Cato, c'est un truc magnifique. Aujourd'hui, on connaît les universités américaines avec les Endowment Funds et tout ça. Eux, ils ont créé l'Endowment Fund de l'Université de Lille qui a fait ce magnifique bâtiment néogothique. Magnifique, c'est superbe. Et ça, aujourd'hui, moi, je me dis, aujourd'hui en France, trop souvent, on attend des politiques, des choses que doivent nous donner les entrepreneurs.
C'est un point très important. Moi, quand vous lisez les évangiles, puisque vous en parlez, moi, j'ai lu les évangiles, je les ai relus parce que j'avais écrit un premier livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes » pour montrer comment l'économie fonctionnait. Et puis j'avais des tas de copains qui m'ont dit « c'est très bien ce que tu as écrit là, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est tout à fait opposé aux évangiles ». Alors j'ai dit « ah bon, sans blague ». Alors j'ai relu les évangiles avec soin à ce moment-là, et j'ai fait le 12e bouquin, si vous voulez, qui d'ailleurs a été refusé par Lafon, alors que j'avais été le deuxième tirage de Lafon avec le premier. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi des forces qui empêchent les gens de parler. Quand l'ennemi voit apparaître quelqu'un qui a l'air de parler un peu différemment, on essaye vite de lui scier les pattes. Mais donc j'ai écrit ce livre. Et ce que j'essayais de montrer dedans, c'est que, si j'ose dire, c'est pas le catholicisme là, c'est la liberté qui crée mais on arrive à cette liberté que si on a bien compris ce que voulait le Christ. Donc c'est vraiment un truc curieux. Ben, au début était le Verbe, vous savez, c'était le titre d'un des bouquins aussi, c'était la vérité vous rendra libre. Et c'est vraiment c'est pour moi ce qui m'embête à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est que on avait eu l'Empire du Mal, qui était l'Empire soviétique, là, tout le monde est d'accord. Et puis on pensait qu'on allait vers le mieux, puis on est passé à l'empire du mensonge. C'est-à-dire on est passé, dans les deux cas, on n'est pas bien, quoi. Donc et là-bas, la question, c'est comment on sort de cet empire du mensonge dans lequel on est aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me tracasse. Donc, et je crois que ça peut passer que par les gens qui parlent librement. Mais je n'ai pas d'autre idée. Par la parole.
Il faut des prophètes, il faut des prophètes qui parlent, mais il faut surtout, je pense, entretenir l'espérance. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voit chez les jeunes en France, parfois, je trouve, on désespère en politique. On nous annonce des nouveaux messies depuis la défaite de Balladur. J'ai l'impression que c'est à chaque fois les nouveaux messies qui ratent leurs élections.
Mais c'est
du coup, il y a des gens
solution.
Qui s'engagent dans des combats qui, pour moi, sont perdus d'avance. Mmh. Alors qu'il y a un combat que tu peux mener, c'est celui de ta sainteté. Plutôt qu'attendre d'être sauvé par un messie, Johnny Hallyday disait qu'il n'y a que Jésus qui est digne de ce nom, dans sa chanson « On veut des légendes ». Là. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, ce qu'il faut, c'est trouver dans le modèle de l'entrepreneur celui qui se prend en main et qui se dit, en fait, c'est à moi de devenir saint et de bâtir le royaume et d'aider.
Et qu'il y a des autres, parce que moi, j'ai toujours dit, les gens me disent pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, c'est parce que j'ai commencé dans la banque et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui étaient très malheureux dans la banque parce qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait, alors je me suis dit je vais essayer de comprendre et de leur expliquer. Donc pour moi l'entrepreneur c'est celui qui sait écouter et puis qui d'un seul coup se dit mais il a besoin de quelque chose là et je peux le faire. Donc s'il y a derrière le truc, il y a une espèce, on l'écoute, on voit ce dont il a besoin, et on se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, et à ce moment-là, on y va. Donc, si vous voulez, derrière la démarche de l'entrepreneur, ce qui n'est pas la démarche toujours du gérant d'entreprise. Mmh. Je parle de celui qui crée, vous savez.
Bien sûr.
Celui qui crée. Celui qui crée, il y a presque toujours la réalisation qu'il y a un besoin qui n'est pas servi, et qu'il va le faire, quoi. C'est un petit peu comme un prêtre qui se dit, celui-là, il a besoin de croire.
Absolument. Et là, on peut pas taxer, je pense, le pape François, de sainte mémoire, d'avoir été un capitaliste libéral. Non. Mais lui-même disait que le patron de l'entrepreneur, le saint patron, on a tous un saint patron, les jeunes, ils ont Carlo Acutis, il disait, pour les entrepreneurs, c'est le père qui est créateur. Oui. Ils disent, il faut qu'en fait, on comprenne que l'entrepreneur est un créateur. C'est celui qui voit un besoin et qui, par amour, je pense, plus que par profit, c'est pas le seul profit qui motive.
Si vous voulez, l'entrepreneur, moi j'en ai connu un paquet, l'argent c'est un moyen, mais ce qui les amuse, c'est de créer. C'est pas de... Après ça, ils se retrouvent avec du fric, ils sont un peu embarrassés. Mais donc, si vous voulez, c'est pas... Il n'y a pas... ça paraît idiot ce que je veux dire. Ce qui intéresse l'entrepreneur, c'est la création. Ce qui intéresse le gérant d'entreprise qui a fait une business school ou n'importe quoi, c'est de maintenir l'outil enfant. C'est pas du tout les mêmes personnes. Et très souvent d'ailleurs, quand un entrepreneur fait ses premiers pas, que ça commence à marcher, il doit faire autre chose parce qu'il laisse quelqu'un d'autre le gérer, quoi.
Et au moment où vous dites ça, ça me fait penser que ces deux frères, en fait, ils sont un peu ce couple entrepreneur et gérant. Philibert qui va recréer le philo chinois qu'il a reçu de son père mais qui va développer avec les nouvelles techniques industrielles de la deuxième moitié du 19e, et ensuite Camille qui lui était médecin de formation, donc quelqu'un qui a le plus le sens humain. Et en fait, il y a besoin aussi de ces gérants qui vont avoir le sens humain, qui vont humaniser l'entreprise. Parfois on reproche au capitalisme de manquer d'humanité, et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est des entrepreneurs plus humains.
Pas autant que le socialisme.
Ah ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est qu'aujourd'hui il faut, je pense, retrouver cette humanité dans la chrétienne, dans l'économie, dont on parle dans le libéralisme avec des personnes comme Wilhelm Röpke, oui, qui parle de l'économie humaine, a humane economy. C'est ce Suisse qui écrit ce bouquin qui, à mon avis, sort du débat est-ce qu'on est socialiste ou capitaliste. On est pour une économie de marché humaine. Et ça, pour moi, c'est le lieu où en fait, les entrepreneurs peuvent devenir sains. Si on est pris dans un débat idéologique où dès qu'on est capitaliste, en fait, bah, on est un salaud de droite, ou bien dès qu'on est un gauchiste, bon, en fait, on est pris...
Je connais des capitalistes de gauche qui en général, ne vivent et ne prospèrent que par les liens incestueux qu'ils ont avec l'État ou les trucs. Donc, si vous voulez, les gens qui gagnent de l'argent à gauche en étant malhonnêtes, il y en a tant que vous en voulez. Parce que ce qui est curieux, c'est que la gauche... on parle toujours de ce qu'on n'a pas, si vous voulez. Donc ils parlent tout le temps d'argent, mais pour aller piquer celui des autres, quoi. C'est pas tandis que le type qui en gagne, moi je parle jamais d'argent, parce que d'abord j'étais d'une famille d'officiers, comme disait ma mère en rigolant, on parle pas d'argent parce qu'on n'en a pas, donc ce n'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire, c'était pas le souci. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez, quand je vois la façon dont les gens, je suis arrêté dans la rue très souvent, la moitié du temps c'est d'ailleurs par des gens issus de l'immigration, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, si vous voulez. C'est que tous ces gens-là, plus personne ne leur parle. Je veux dire, on leur parle. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand j'étais enfant ou jeune, vous aviez De Gaulle qui parlait au français, vous aviez Pompidou qui savait parler au français, Giscard, ça commence à se détériorer. Puis après, il y a une espèce de langage mécanique qui s'est mis dans le monde populaire, vous avez des éléments de langage, qui s'est mis dans le monde politique. Et aujourd'hui, les Français, c'est très curieux, il y a une attente de quelqu'un qui leur parle. Plus personne ne parle à plus personne dans ce foutu pays. Ils sont tous avec leur truc dans les oreilles, leur regarder leur téléphone et de marcher se cogner dans les réverbères. Mais c'est très étonnant. Il n'y a plus de la société de la parole a disparu.
C'est vrai, je pense, des politiques, c'est vrai parfois des chefs d'entreprise qui aussi parfois ont peur des prud'hommes, c'est-à-dire que dès que tu t'engages trop dans une relation, tu prends des risques, mais c'est vrai aussi malheureusement des prêtres. Moi je trouve qu'aujourd'hui on a cette chance en France, moi je suis ça de loin, et je vois le renouveau des jeunes catéchumènes, et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, mais non mais c'est truqué ce renouveau, en fait c'est que des jeunes identitaires qui viennent là parce qu'ils votent au FN et ils se retrouvent dans un catéchisme identitaire, et il y a des gens en fait qui leur ferment la porte, et moi je trouve ça dommage aujourd'hui, effectivement de manquer de parfois de prêtres dans les milieux populaires. Dans les milieux populaires, ça ne veut pas seulement dire dans le 9-3, mais ça veut dire dans les villages en Corse, ça veut dire chez vous dans le Gers, dans ces endroits-là où en fait on a besoin de prêtres qui soient proches des gens, de leur tradition, de leur procession et tout ça. Et le cardinal Bustillo, je trouve que là-dessus, moi, il m'a vraiment donné beaucoup d'espoir parce que j'ai vu un cardinal qui rentre dans la procession avec les gens et qui est là avec eux et qui leur parle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des figures qui parlent comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on en a besoin davantage.
Regardez le cardinal Sara, c'est incroyable cet homme qui est arrivé du fin fond de l'Afrique, là, où il gardait des chèvres et qu'il devient un cardinal de l'Église. Et tout ce qu'il dit est incroyablement profond. Et ses livres se vendent, et il est passionnant. Il y avait Lustiger qui parlait aux gens. Mais je sais pas, il y a une espèce de silence. Et là, j'ai ce prêtre à Montfavet que j'aime beaucoup, avec lequel je fais deux émissions avec lui ici. Et il me disait que devant ce renouveau des catéchumènes, puisqu'il va y en avoir une centaine qui vont être baptisés à Montfavet, là, à Pâques, pas à Montfavet, à Avignon. Ils ont eu des grandes réunions avec les catéchumènes dans son église. L'archevêque est venu, etc. Ils ont discuté. Et les gars ont posé la question, est-ce qu'il faut évangéliser les musulmans ? Essayer d'évangéliser les musulmans, ce qui est une question intéressante, quoi. Et l'archevêque a répondu, mais jamais de la vie. Mais c'est l'archevêque d'Avignon. Donc si vous voulez, c'est quand même extraordinaire de penser... Parce que c'est dangereux.
C'est tellement dommage. Moi, dans ma paroisse, vous voyez, je suis missionnaire au Cambodge. Je suis dans une ville où il y a beaucoup de scams en ligne. C'est une ville très difficile. Sihanoukville, sud du Cambodge, le Las Vegas de l'Asie du Sud-Est. Oui. Dans ma paroisse, j'ai énormément d'Indonésiens. Oui. Et chaque année, j'ai des Indonésiens qui ne peuvent pas être baptisés chez eux. Et en train de travailler dans les casinos, ils découvrent le Christ. Ils apprennent qu'il y a un prêtre qui baptise les gens. Et ils viennent chez moi et j'ai demandé à l'évêque la permission de faire un catéchuménat rapide, comme on fait en Asie. Ça veut dire entre 3 mois et 1 an pour être baptisé. Je baptise chaque année à tel point que mon catéchisme en chef s'appelle Mohamed Augustinus et son nom de confirmation c'est Joseph Ratzinger. Donc sur Telegram il s'appelle Mohamed Augustinus Joseph Ratzinger. C'est et moi je trouve ça génial et je trouve ça beau. Et en France il y a tout un courant, il y a une association qui s'appelle FIDE, de jeunes en banlieue qui ont en fait qui se rendent compte de l'urgence et de la chance qu'on a. On est un pays qui est encore libre, beaucoup plus libre que l'Algérie ou la Tunisie, où on peut proclamer librement la foi. Mais profitons de cette liberté. Quel dommage de pas s'en servir. Aujourd'hui moi je suis missionnaire au Cambodge, mes ancêtres, le père Poncho, ils sont fait virer par Pol Pot. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être là. Je peux porter la Bible, je peux annoncer sur les réseaux sociaux comme on le fait actuellement, la bonne nouvelle. Je me dis, cette liberté, pour moi, c'est la liberté dont parlent les Galates, une liberté dont on doit se saisir. Et aujourd'hui, en France, c'est une opportunité qui nous est donnée incroyable.
Et moi, si j'adore... on veut résoudre le problème un jour des gens qui viennent d'Afrique ou d'Afrique du Nord, etc., bah, s'ils sont chrétiens, il me semble-t-il, il n'y aura jamais aucun problème.
Et je pense que beaucoup sont en attente.
Ben beaucoup sont en attente.
Beaucoup sont en attente. Moi, combien de fois, en France, je prends un truc, ça s'appelle Bolt. C'est le taxi pas cher, parfois, je prends ça. Et c'est vrai que c'est des gens qui bossent comme des fous, comme qui font fous. Pas 35 heures. C'est des gens qui... il y a ce matin, dans le Bolt, quand je suis venu ici, il y avait un gars qui me parlait de ça. Et ses copains lui avaient dit, mais pourquoi t'as pas voté pour la liste LFI ? Parce qu'il n'a pas voté pour la liste LFI chez lui. Moi, je ne vais pas donner mon avis en politique, mais je trouvais ça intéressant. Mais lui, il dit, mais en fait, ça ne correspond pas à ce que je vis. Moi, je suis un bosseur, je ne suis pas là pour demander des allocs. Il est là pour bosser, le gars. Et il est là parce qu'il aime la France, parce qu'il aime cette liberté, parce qu'il serait resté chez lui. Et pour moi, en fait, il faut qu'on puisse parler à ces gens-là.
Il y a beaucoup de ces gens-là qui aiment la France. C'est-à-dire que l'impression que j'ai quand je me balade, c'est qu'il y a 80% de ces gens qui sont contents d'être en France, qui voudraient devenir français, être acceptés et tout, et il y a 20% de sales cons qui font des bêtises et qui embêtent tout le monde. Et j'ai l'impression que le pouvoir politique ne parle qu'aux 20% et ne parle pas du tout aux 80%. Et donc, parce que ça les arrange aussi qu'il y ait ces 20%, parce que ça permet de maintenir la population dans un état
de tension.
De tension, de rupture, ouais. De haine, etc., ce qui les arrange.
Donc, si vous voulez. Il y a ceux à qui on parle et ceux dont, de quoi on leur parle. Ouais. Quand on voit la culture qu'on leur propose, quand on voit ce que propose la fête de la musique ou ce qu'on enseigne dans les lycées publics, il faut aussi leur parler de la France de toujours, la France qui mérite d'être aimée, la France que moi, mon père m'a transmis. Bien moi, sûr. Je suis une famille franco-américaine, mais on m'a toujours, vous voyez, je suis moitié immigré, mais j'ai toujours aimé la France, j'ai toujours aimé Jeanne d'Arc, j'ai toujours aimé les fêtes de village et tout ça. Moi, je trouve ça fantastique de pouvoir être accueilli.
Romain Gary, qui était un juif, donc de là, en Ukraine, là-bas, etc., il disait « Je n'ai pas une goutte de sang français en moi, mais la France coule dans mes veines. »
Et c'est la France qui
est
pour
c'est
moi,
la France qui est belle.
C'est la France qui aussi du village qui est tourné autour de son clocher. Voilà. Et trop souvent, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a du mal à parler de cette France-là, à offrir cette France-là. Sauf en Corse. En Corse, en fait, bah, c'est si tu habites à Sartène et que tu n'es pas là pour la procession du Catenache, tu n'es pas là.
J'ai jamais connu une maison en Corse, ça me fait rigoler. Et ils ont une paroisse qui est très bien, je ne sais plus dans quel village d'ailleurs. Enfin, ils sont au bord de la mer, là, c'est très bien. Et le prêtre du village, qui est un type au poil, hein, qui doit avoir votre âge à peu près, c'est le fils du patron de la mafia.
Ah. Corse. Sympa.
Non, mais c'est... Donc, si vous voulez, il y a une espèce de... Le fils de... Il est prêtre, et tout le monde va à la messe avec beaucoup de...
Et comme on dit beaucoup bien de la Corse, moi aussi, je veux dire, en Corse, là-dessus, il y a des prêtres qu'on dit venus d'ailleurs, qui sont des missionnaires qui sont africains, qui viennent en Corse, qui remontent des villages en Corse. Moi, j'ai un ami qui a été pendant des années à Bonifacio. Bonifacio, c'est une petite bulle libérale du ultra-résistant du sud de la Corse, magnifique, un lieu superbe et tout. Et bien, un prêtre comme ça, venu d'ailleurs, qui avait cette liberté intérieure de dire, bah, je vais pas me cacher d'ailleurs des fausses étiquettes de racisme ou je sais pas quoi, je vais me servir les gens. Le catéchisme, ils sont passés de 50 à 70, il a remonté sa paroisse, c'était extraordinaire. Moi, je suis admiratif, en fait, de cette liberté qu'on a en France. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir une grande ouverture. On est un pays qui n'est pas raciste, un pays qui n'est pas misogyne, un pays qui n'est pas communiste, un pays où on est libre.
Et non, trop c'est souvent, qu'il n'est pas en fait, misogyne, mais j'ai toujours pensé, c'est curieux ce que je vais dire parce que j'ai vécu dans tous les pays du monde, que la France était le seul pays au monde où les hommes et les femmes s'aimaient bien. Parce que dans la plupart des autres pays du monde, si vous voulez, les femmes sont d'un côté, les hommes sont de l'autre côté, puis de temps en temps, et parce qu'il faut faire des petits, on les remet ensemble, mais vraiment, les hommes en France aiment la compagnie des femmes, et les femmes ont tendance à aimer la compagnie des hommes. Mais ça aussi, c'est en train de changer. C'est nouveau. on est en train de casser cette espèce de lien qu'il y avait entre les Françaises et les Français. Quoi. C'est, ça aussi, ça me surprend. Pourquoi d'un seul coup, décide-t-on que les hommes ne sont pas bien? Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Hein.
C'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui me surprend. Je reviens en France rarement, mais à chaque fois que je reviens, c'est vrai que je découvre de nouveaux débats, des questions qui ne se posent pas trop en Asie. Et c'est vrai qu'on a gagné quelque chose d'incroyable avec le Christ, hein, qui, le matin de la résurrection, rencontre Marie-Madeleine, quoi, toute seule, alors qu'il faudrait deux ou trois témoins pour quand même pour que ça soit crédible. Et c'est pour ça que les gars, le soir, quand ils arrivent à Emmaüs, ils disent, il y a une nana du groupe, ou il y a peut-être des nanas du groupe qui racontent des trucs, mais on les croit pas. Le Christ, il restaure le témoignage de la femme, et dans la vision chrétienne de l'humanité, on n'est pas dans cette tension, ce conflit marxiste où il faut toujours opposer les classes et tout ça, c'est la lutte des classes permanente. Moi, je trouve qu'en France, on a 2000 ans de chrétienté. On a un trésor qu'on a à préserver. Il faut aujourd'hui, pour moi, vraiment l'assumer comme un héritage libéral, un héritage de liberté. Et trop souvent, on garde des vertus un peu dévoyées du christianisme.
Que ce que vous dites est tout à fait intéressant, parce que dans le fond, le christianisme, ça n'est pas du tout une orthopraxie. C'est-à-dire, moi, ce qui m'embête beaucoup avec le Christ, quand vous lisez les évangiles, c'est qu'il vous dit, viens et suis-moi. Mais une fois qu'il vous a dit ça, qu'est-ce que vous faites?
Parce vous, que le suivez.
Vous le suivez, oui, mais ça veut dire quoi le suivre? À quoi ça amène? Vous voyez ce que je veux dire?
C'est chacun,
c'est à vous de déterminer ce que suivre le Christ veut dire dans votre vie. C'est vachement difficile, ça. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on peut être un bon musulman, il n'y a pas de problème, on peut être un bon juif, mais on ne peut pas être un bon chrétien. Personne ne peut se dire un bon chrétien. Je ne pense pas.
Sauf celui qui est canonisé, hein, votre ancêtre, Chauffleur.
Mais ça, il se l'est fait une belle jambe, le pauvre vieux, il était mort depuis longtemps. Mais en effet, ceux qui sont canonisés, on sait qu'ils sont là-haut.
De son vivant, effectivement, il y a dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7, on évite de canoniser les gens de leur vivant. Moi, je vous rends un hommage aujourd'hui, mais je sais que Charles Gave, c'est un homme avec ses limites. Et du coup, dans l'Épître aux Hébreux, il y a cette phrase magnifique qui dit « Contemplez la fin de la vie de ceux qui vous ont dirigé. » Moi, ma génération, c'est la génération des faux prophètes, hein, de Jean Vanier, de Marie-Dominique Philippe, de toutes ces communautés qui nous ont lâchés. Et c'est vrai que parfois, on a aujourd'hui cette peur. Et moi, quand je vois des figures comme vous, qui sont très charismatiques, des anciens, en fait, je me dis, en fait, la France a besoin d'un grand-père comme vous. Elle a besoin d'un grand-père qui lui dise des principes de bon sens, de qui leur montre que, bon, la foi de papy, c'est pas mal quand même. Et aujourd'hui, en France, pour moi, là-dessus, il faut des modèles libéraux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des modèles qui soient anxieux par rapport à l'avenir. Il ne faut pas des modèles qui soient fermés sur le développement, sur la modernité. Il faut cette modernité qu'avaient les libéraux du 19e qui ont accepté qu'en fait la révolution est passée, on va pas revenir en arrière, mais on va faire confiance à l'avenir, confiance
aussi,
à la jeunesse.
Ils vivaient aussi autre chose qui était très difficile, qu'on vit aussi nous aussi, c'est qu'ils vivaient un changement économique, c'est-à-dire que la richesse n'était plus créée simplement par l'agriculture. Donc il y avait des règles à établir de la façon dont cette richesse allait être créée, posséder, répartir, vous voyez, je veux dire, il y avait tout un truc à inventer.
Et eux, ils ont été créatifs à l'époque. Nous, aujourd'hui, on a des nouveaux domaines avec le sixième continent numérique.
Absolument.
Avec tout ce qui va arriver avec les miracles d'Internet et de l'IA. Aujourd'hui, on a fait une opportunité incroyable. Moi, je suis content quand je vois ce qui se passe au Vatican. Aujourd'hui, on a des grands théologiens qui ont beaucoup réfléchi à ces sujets. Il y a une grande ouverture sur ce sujet. Et je me dis, aujourd'hui, il faut des gens comme vous qui puissent être des témoins de l'espérance pour aider la nouvelle génération, la mienne, à se lancer.
Absolument, vous avez raison, je vous donne un exemple. C'est que je me suis rendu compte, enfin ma fille s'est rendu compte que quand je parlais, là, les gens s'intéressaient beaucoup, en particulier quand je me mettais à parler de finance, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est mon métier. Et donc, elle a dit, on va faire une université de l'épargne. Et donc, on a déjà 9000 abonnés, ce qui est gigantesque. Mais ça veut dire que la façon dont on transmet les connaissances depuis la création des universités par l'Église au 12e à peu près, est en train de changer profondément. C'est-à-dire qu'il faut penser à la façon dont on va transmettre les connaissances qu'on a en utilisant les avenues nouvelles, pas en allant dans le vieux truc. C'est-à-dire que l'université aujourd'hui, en tant que dispensateur de connaissances, est morte. C'est plus par là que ça va passer. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est en train d'assister... On est en train d'assister à la mort de l'enseignement en chaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il va falloir enseigner de façon différente.
Si on est libéral et qu'on croit à la création destructrice,
oui.
Eh bien, est-ce qu'on est en plein dedans ?
On est en plein dedans.
Et il faut se réjouir, mais aussi sans être dans une sorte d'emballement, de fascination pour la nouveauté permanente.
Non, il faut le faire. Le plus difficile, c'est de le faire, si vous voulez. C'est de se dire, bon, il y a ces outils qui sont disponibles, mais moi, j'ai encore des copains qui en ont de moins en moins, parce qu'ils sont tous en train de crever, d'ailleurs. c'est affreux. Mais j'en ai tout un tas, si vous voulez, qui, quand ils avaient des secrétaires, faisaient imprimer par leur secrétaire les emails tous les jours pour pouvoir les lire tranquillement. Mais je veux dire, c'est, vous dites, le type, il est encore à la civilisation de l'écrit, quoi. Et aujourd'hui, on est en train de passer dans une civilisation, je ne sais pas comment on l'appelait, de la transmission, mais pas par écrit, pas autre chose. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que l'écrit, c'est un support, mais ça n'est plus le seul vecteur.
Il y a un grand jésuite, je sais que vous n'êtes pas ami de tous les jésuites, mais il y a quand même des grands jésuites. Il y avait Teilhard de Chardin qui parlait d'une noosphère dans laquelle on en serait rentré, une sorte de, au-delà de l'atmosphère, la noosphère dans laquelle on est rentré avec ce continent d'Internet. Et c'est vrai que pour moi, c'est un lieu que je me réjouis de pouvoir évangéliser. À la suite de Carlo Acutis, c'est ce petit jeune qui est mort en 2006, et bien lui, fils de grands entrepreneurs, lui, il n'avait aucune chance de rentrer au ciel selon les évangiles, parce que c'était le chameau, quoi. Et il est passé. Il est passé, il a été canonisé, il donne beaucoup d'espoir parce qu'en fait, Internet, qui aurait pu être un lieu du dark web, de la sombre réalité du monde, eh bien, est devenu un lieu de lumière grâce à des gars comme lui qui ont fait un truc où on peut transmettre par des PDF une exposition sur les miracles eucharistiques. Vous, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est prêcher la bonne nouvelle sur les ondes. Vous n'êtes pas avec la radio du général de Gaulle, mais avec votre micro, quelqu'un qui montre qu'en France, aujourd'hui, il y a encore un homme chrétien et libéral, un peu comme Bayard, un Français sans peur, chrétien sans reproche. Vous êtes un peu le chevalier du 21e siècle là-dessus, dont la France, elle a besoin, parce que trop souvent, on se décourage. Trop souvent, on se dit, mais c'est pas possible en France, faut que je parte.
Et le truc que j'entends tout le temps, c'est, je me dis, mais pourquoi tu fais tout ça? Je leur réponds, j'en sais foutre rien. Je sais pas pourquoi je fais tout ça, mais surtout, chaque fois que j'ai lancé quelque chose, la quasi-totalité des gens raisonnables m'ont dit, ça va pas marcher. Le à quoi bon? Si vous voulez, pour moi, c'est ça la force ultime de Satan, c'est à quoi bon? Tu vas être tout seul, à quoi bon? Ben, à quoi bon, dans ce cas-là, on fait tout seul et on se flingue, quoi. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est... Et c'est souvent ceux qui ont... justement, les riches, mettons, qui disent à quoi bon, parce que...
Peur de perdre. Les défaitistes, à la première heure, et ceux qui viennent au secours de la victoire, pour moi, sont les ennemis de l'Évangile. Nous, on commence dans une crèche, on finit sur une croix, mais l'éternité nous est promise dans la gloire. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, pour pouvoir traverser les périodes qu'on vit actuellement, qui sont les périodes de transition, comme vous disiez, avec cette apparition d'Internet, comme à l'époque, l'économie qui se transforme au 19e. Aujourd'hui, il y a des transformations. Il faut qu'on puisse croire que dans ce nouveau monde dans lequel on rentre, eh bien, on va pouvoir être chrétien, on va pouvoir être saint, et on va pouvoir être libre.
Voilà, mais surtout, si on n'est pas libre, ça va être difficile d'avoir quoi que ce soit qui. Parce que rien n'est créé sans la liberté, quoi. Si dans les pays où il n'y a pas de liberté, il ne se passe rien. Et c'est pour ça que la France est en train de devenir un pays stérile. C'est un pays où on a beaucoup restreint les libertés depuis. Au moment où j'ai commencé mes études jusqu'à maintenant, j'ai vu le rétrécissement de nos libertés, c'est incroyable.
Un rétrécissement paradoxal, parce qu'il y a aussi une ouverture qui a été faite. Par exemple, depuis que vous êtes jeune, on a quand même eu l'abattement des frontières. Mmh. On a eu la facilité de voyager, la facilité de communiquer. On n'est plus fliqué dans nos communications. Donc avec Internet, il y a un espace de liberté qui s'est ouvert, mais qui est aussi menaçant parce que les gens ont peur. Avec tout ça, il y a tous les fantasmes sur le QR. En Europe, on voit qu'on est attardé sur le système. En Asie, tout est le QR partout, ça fonctionne très bien. Mais il y a la peur du quotient social chinois, il y a la peur du contrôle bancaire, il y a la peur, par exemple, même avec le Bitcoin, toujours cette volonté de rester libre. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir se dire, peu importe les systèmes, peu importe les circonstances, qu'intérieurement, tu aies cette foi qui te permet de rester libre.
En fait, quand on dit rester libre, c'est aussi le pouvoir de dire non.
Oui.
Bon, pour moi, c'est le pouvoir essentiel. Si vous voulez, quand les gens me disent qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enfants, il faut leur apprendre à leur dire non. Surtout aux filles, d'ailleurs. Une bêtise, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de dire des bêtises. Donc, il faut dire non parce que j'ai vu des personnes dans ma famille justement dire non. Mon père qui a été condamné à mort par Vichy, etc. Donc, je crois que l'essentiel, si vous tombez dans l'histoire de votre famille, quelqu'un qui a dit non, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de prendre la position de refus, si vous voulez. Mais si vous avez toujours dit oui, si vous avez toujours été dans les palais nationaux, dorés, avec des voitures de fonction et tout, c'est peut-être plus difficile.
Mais quand on préfère le confort bourgeois à l'esprit de résistance, c'est clair que c'est plus difficile. Moi, c'est quelque chose que je me demande si on n'a pas un peu perdu dans ma génération. On a tendance à être complaisant. Aujourd'hui, on a un confort incroyable au fond de nos canapés à scroller. Et c'est vrai, je me dis, qui serait prêt aujourd'hui à accepter la liberté du chien sauvage? Et parfois, c'est du loup, ouais. Mais c'est pas évident parce que aujourd'hui, pour moi, là-dessus, cette liberté de celui qui dit non, eh bien, elle a un coût. Et ma génération, c'est vrai qu'on n'a pas connu l'absence de confort. Ma génération, il y a des gens qui ont grandi dans la pauvreté en France, il y en a qui sont dans la pauvreté aujourd'hui, et ça, ils nous écoutent peut-être, ils disent, bah si, moi j'ai connu, et je leur dis bravo, et je leur dis bravo d'avoir gardé la foi, d'avoir gardé l'espoir dans ces circonstances, mais je dis à la France qui voit son déclassement arriver aujourd'hui, de se préparer spirituellement aussi, parce qu'il y a des batailles qui vont devoir être menées demain. Vous dites souvent que la France va devenir un pays de bronze cul, c'est une phrase que vous sortez souvent, pour moi ça va devenir un pays de héros de la liberté, ça veut dire qu'on va avoir besoin de gens, qu'ils soient pas des papis qui font la résistance comme vous, mais des jeunes qui font la résistance spirituellement et moralement. C'est-à-dire que face à l'affaissement de notre civilisation, il faut qu'on puisse se lever et que notamment les chrétiens ils puissent porter un témoignage d'espoir.
Voilà, c'est ce que disait Bernanos, France, pays des bâtisseurs de cathédrales, des fous et des philosophes. Et je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de bâtisseurs de cathédrales, des philosophes, il y en a plus des masses.
Il reste au moins deux fous.
Il reste quelques fous ici ou là qui ont probablement été, qui restent. Il y en a peut-être plus qu'on ne pense. Mais peut-être cette liaison par l'Internet permet de se rencontrer aux gens qui ne sont pas seuls.
En tout cas, moi, l'Internet me permet de me rendre compte que la France est encore la fille aînée de l'Église. Qu'il y a un renouveau en France, vous savez, qui n'existe pas forcément ailleurs. Il faut s'en réjouir et ça, c'est une bonne nouvelle. Les catéchumènes, les communautés comme Saint-Martin ou Saint-Pierre qui accueillent énormément de séminaristes. Les figures de prêtres qui marchent très bien sur les réseaux. Les jeunes prêtres de Padre Blog, les prêtres comme le Ferrer Paul Adrien. Il y a tout un dynamisme en France et qui est magnifique. On a eu le succès, le triomphe du Sacré-Cœur l'an dernier, qui m'a donné beaucoup d'espoir aussi. Moi, pour moi, la France va se relever. Elle est en train de se relever avec tous ces jeunes qui arrivent. Il faut qu'ils puissent être accompagnés. Il faut qu'on leur fasse une place aussi. Parce que cette place, ils peuvent la prendre, mais il faut qu'elle existe. Et si parfois on leur dit qu'il n'y a pas de place dans les séminaires, s'il n'y a pas de place dans ton église, eh bien, si on ferme nos églises, si on ferme nos séminaires, mais où est-ce qu'ils vont ces jeunes? Aujourd'hui, il faut qu'on laisse la place et qu'on leur donne que le monastère, plutôt que de les vendre, qu'on leur dise, mais venez. Qu'on laisse la place aussi aux jeunes comme ils sont. Qui viennent comme ils sont, pas chez McDo, mais chez nous, avec leurs passions, leurs idées, leurs contradictions parfois aussi. Et pour moi, il est vraiment là le défi.
Le défi, c'est en effet
de transmission.
D'accepter les rebelles. C'est ça pour moi.
De transmettre à des rebelles, oui.
Oui, je crois que le rebelle, c'est dans le fond le sel de la terre. Quoi. C'est celui qui est différent, qui ne pense pas comme tout le monde. Voilà, donc. Mais je suis content que vous soyez venu parce que quand même, d'abord, vous êtes un exemple vivant. Le Cambodge, c'est un pays qui a beaucoup souffert. Et j'avais visité Phnom Penh à plusieurs reprises. J'ai toujours du mal à Phnom Penh parce qu'on sent comme une espèce encore de... C'est un peu comme à Saint-Pétersbourg. Quand vous allez à Saint-Pétersbourg, vous sentez la masse de souffrance qu'il y a eu. Je ne sais pas si ça vous comprenez.
Le point d'histoire.
Le point d'histoire. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses abominables qui se sont passées. Je ne sais pas s'il y a des âmes qui traînent encore, mais vous vous sentez atteint moralement, ouais, je pourrais dire. Il y a eu beaucoup de... Hanté, voilà, hanté. Vous vous sentez hanté. Il y a des endroits comme ça qui sont hantés. Quand j'avais été à Phnom Penh, je m'étais dit « ouh ». Donc, j'aime pas tellement les endroits hantés, donc vous avez du courage d'être là-bas, mais vous avez les éléments qu'il faut pour repousser l'ennemi. Mais c'est curieux, c'est. Il y a des endroits qui sont historiquement durs et le Cambodge en est un, je trouve.
Est-ce qu'on voit grâce à vous, et puis grâce à votre ancêtre Augustin Schoeffler, qui est mort martyr, pour le redire une dernière fois, en 1851 au Tonkin, eh bien, c'est que c'est ce qui semble parfois comme une défaite pour nous. Eh bien, par la foi, il y a une victoire.
Ouais,
aujourd'hui, au Vietnam, il y a une abondance de vocations. Il y a des milliers de séminaristes. Quand votre ancêtre est mort, il n'y avait personne. C'était la cata.
Et en fait,
ce sacrifice pour nous, qui est le don de l'entrepreneur, qui ose risquer à partir de rien et peut-être
tout.
Pour rien, eh bien, il nous donne de l'espoir aujourd'hui. Et moi, dans ma mission, c'est ce que je voudrais transmettre. Moi, je suis parti presque avec rien en mission. Parfois, j'ai l'impression de rien faire. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'en fait, ce sacrifice, eh bien, il puisse porter du fruit. J'ai écrit ce livre-là aussi pour aider mes amis qui sont entrepreneurs en France, qui parfois me disent exactement cette tentation du « à quoi bon en France ? Est-ce qu'on serait pas mieux ailleurs ?» Non. Si vous voulez partir pour être missionnaire, partez. Mais si vous voulez partir pour fuir, restez, parce que la France, elle a besoin de héros comme vous, qui vont porter un flambeau, qui vont porter un étendard,
qui vont, à mon avis,
être les témoins de la liberté dont la France a besoin.
Oui, et puis qui détestent pas donner des claques aussi, vous savez. C'est que je crois qu'il y a un côté...
Vous allez repartir sur la droite évangélique, là.
Vous savez, j'avais un vieil ami, quelqu'un que je connaissais bien, qui était deuxième ligne au rugby. Il mesurait 2 mètres de haut, costaud comme tout, dans la région de Toulouse. Et il était prêtre. Et alors, on lui disait toujours, Alors, quand il y a un type qui te met un coup dans la gueule, tu tends l'autre joue, vous savez, c'était le... Et il disait toujours, je tends l'autre joue, et s'il me remet un coup, après ça, j'ai plus d'instructions. Pour moi, c'est ça. Moi, je suis un catholique qui tend l'autre joue une fois. Puis après, il aime bien distribuer des coups. Il faudrait peut-être que le catholicisme devienne un petit peu moins souffreteux et un petit peu plus rugbystique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire de rendre les coups. Et peut-être l'épiscopat français devrait rendre les coups avec un peu plus de vigueur qu'il ne le fait à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous trouvez, mais c'est pas votre... Je
peux
pas.
Alors, pour dire du bien d'eux, mais surtout pour dire quelque chose qui peut-être peut nous inspirer, pour finir, sur la vertu de force chez les chrétiens. Vous savez quel est le plus grand acte de la vertu de force selon saint Thomas d'Aquin? C'est le même que le plus grand acte de la charité, c'est le martyr. C'est l'acte d'Augustin. Augustin Schoeffler, c'était pas une victime. C'est pas un pauvre type à qui on a cassé la gueule. C'est un type qui a accepté de mourir pour le Christ, de mourir pour l'invisible,
là,
de mourir pour l'amour.
Pour l'amour.
Et là-dessus, nous, il faut qu'on soit des héros. Et le martyr, c'est pas une victime. Vous savez, c'est le Christ de Zeffirelli qui arrive en faisant pitié sur la croix. Moi, j'aime le Christ de Mel Gibson qui arrive, Jim Caviezel, sur la croix en la portant, en souffrant, mais victorieux. Et je pense que c'est, il faut qu'on sorte de cette mine défaite du catholicisme français qui parfois veut se faire pitié lui-même, cette auto-victimisation de ah les abus, les trucs, les machins, de se dire non, moi, je suis partisan du Christ victorieux. La droite, j'en prends une autre si tu veux, mais je sortirai victorieux parce que j'ai mis ma foi dans le Seigneur.
Et alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, saint Thomas d'Aquin, je veux bien devenir martyr tout seul, mais quand vous êtes en charge de protéger des gens, à quel moment vous recommencez à donner des coups? Vous voyez ce que je veux dire? C'est autant être martyr tout seul, c'est très bien. Mais quand vous avez...
Plus simple quand on est célibataire.
C'est pour ça qu'il prétend être célibataire. Mais quand vous êtes... chef de famille ou j'en sais rien, que vous avez des petits-enfants autour de vous, il y a un moment où il faut...
Grosse question de la responsabilité morale.
Voilà, c'était une question qu'avait traité saint Thomas d'Aquin, mais défendre les autres, c'est aussi... c'est-à-dire que le soldat, c'est un... J'avais un livre d'un Corse, d'ailleurs, Paoli, oui, qui m'avait beaucoup frappé, c'était La mort du soldat. Dans lequel disait que nos civilisations, maintenant, on essaye de détruire le soldat. Alors le soldat, c'est celui qui protège la cité. Et donc, celui qui protège la cité, il était honoré de tout le monde, parce qu'il mettait sa vie en jeu pour protéger les autres. Et puis, nos civilisations, depuis 50, 70 ans, ont décidé qu'on n'a plus besoin de soldats. On commence à se rendre compte qu'on en a besoin à nouveau, quoi.
Et vous me précédez déjà, parce que ce bouquin-là s'appelle Les entrepreneurs au paradis. Il y a déjà eu un geek au paradis, et le prochain, ça s'appellera Des soldats au paradis, en hommage à mon père, qui est mort, et qui était soldat lui aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'on a eu, pendant des années, des grands modèles de soldats, des saints depuis Saint-Martin, mais il y avait, depuis le saint qui a mis sa lance dans le côté du Christ, lui-même, Longus, est considéré comme saint. Il y a saint Expédite, il y a toutes sortes de saints du premier millénaire qui ont été des grandes figures. Et encore récemment, on a eu des figures en France comme Arnaud Beltrame qui ne doivent pas laisser indifférents et qui montrent vraiment la spiritualité du soldat. Il y a des gens, on se dit, mais comment est-ce qu'ils vont rentrer au ciel? Le soldat en fait partie, l'entrepreneur aussi.
L'entrepreneur aussi, c'est ça, parce qu'ils mettent leur vie en risque pour les autres. Et le prêtre aussi, d'ailleurs. Il met sa vie en risque pour les autres. Donc, si vous voulez, et dire de quelqu'un qui a une vocation de mettre sa vie en risque en défendant le pays, par exemple, par les armes, qu'il est un salaud, c'est complètement quoi. C'est-à-dire, autant je déteste les militaires, autant j'aime les soldats, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout la même bête, quoi. Donc, on a très mal utilisé le langage depuis très longtemps. Il faut aussi revenir à que les mots aient un sens. Militaire, c'est quelque chose. Soldat, c'est autre chose.
Libéral aussi.
Libéral aussi, voilà.
Et pour finir sur la mort, justement, ce mot libéral, dans le temps, c'était le sens de la libéralité.
Oui.
Vous êtes une grande dame libérale parce que vous avez beaucoup donné, en transmettant sur votre chaîne, en transmettant par vos bouquins. Et je pense que si un jour on fera votre tombe, il faut écrire sur cette épitaphe une grande âme libérale, parce que vous avez beaucoup donné à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient contentes de vous dire merci. Ils n'ont pas tout le temps l'occasion, peut-être qu'ils mettent dans un commentaire sur YouTube, mais en tout cas moi je voulais vraiment venir aujourd'hui pour vous dire merci. Moi, ce que vous disiez, la suite du Christ, c'est un chemin. Je suis pas encore arrivé, mais j'ai encore beaucoup de leçons de liberté à apprendre. Mais j'apprécie celles que vous m'avez données et qui m'ont permis aujourd'hui d'être qui je suis, de rester, je pense, un chrétien à qui on peut faire beaucoup de reproches, mais un libéral qui se laisse pas désarçonner.
Merci beaucoup. Vous pouvez savoir. Ça me fait grand plaisir. Voilà. C'est parce que Vox Clamentine désertit de temps en temps. Vous avez l'impression que, mais c'est pas vrai. En fait, la parole retombe toujours. Elle arrive toujours où elle doit aller. Je suis vraiment... Merci beaucoup.
Merci à vous.